Vous écoutez, on lit pour vous.
Feu de camp entre écologie et tradition. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 27 septembre 2024 dans La Presse. Allumer un feu quand on passe une fin de semaine au camping, est-ce que ça pollue tant que ça? Demande Michel, une lectrice. L'odeur, les guimauves grillées, les histoires racontées. Véritable institution, le feu de camp est souvent associé à des souvenirs très forts et fermement ancrés dans la culture québécoise. Mais il peut soulever certains enjeux de santé et d'environnement qui défraient régulièrement la chronique et creusent un fossé entre les partisans de l'air pur et les défenseurs d'une tradition millénaire. Carbone neutre, le feu de camp? En matière de déforestation, le feu de camp a très peu d'impact, d'après Elliot Müller, chercheur au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. Souvent, dans les campings, on utilise du bois qui aurait été coupé, quoi qu'il arrive, explique-t-il. Quant au bilan carbone, on pourrait penser que brûler une bûche est carboneutre. Mais c'est plus compliqué que cela. Une telle vision met de côté le fait qu'un arbre stocke du carbone pendant des années, puis le relâche d'un coup en brûlant. Et c'est vraiment important de prendre ça en compte, souligne Elliot Müller. Comme le tabac. Pour évaluer les conséquences d'un feu de camp sur la santé, il faut considérer la durée et l'intensité de l'exposition, explique le Dr Stéphane Perron de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Quand une bûche brûle, elle envoie non seulement dans l'atmosphère le carbone qui était stocké dans le bois sous forme de CO2, mais également d'autres composés chimiques, dont des particules fines. Ce sont celles-ci qui inquiètent le plus le Dr Perron. Elles peuvent provoquer une toux et irriter les yeux et les muqueuses. Les conséquences peuvent être graves, en particulier chez les personnes vulnérables. Ces particules fines peuvent s'installer profondément dans les poumons et créer une inflammation, ou même avoir des conséquences cardiovasculaires. C'est un peu comme le tabac, illustre le Dr Perron. Mais tout est relatif. Si on vit proche d'une autoroute, la durée d'exposition aux particules fines sera plus longue. Donc, l'impact sur la santé sera beaucoup plus grand qu'une fin de semaine ponctuelle autour d'un feu de camp, ajoute-t-il. La pollution par des particules fines, source, CEPAC, OMS, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et Environnement et changement climatique Canada. 7,2 microgrammes par mètre cube, concentration moyenne de particules fines à Montréal en 2020. 15 microgrammes par mètre cube, seuil journalier que l'OMS recommande de ne pas dépasser plus de 3 ou 4 fois par an. 35 microgrammes par mètre cube, seuil de mauvaise qualité de l'air au Québec, jour de smog. 78 microgrammes par mètre cube, concentration moyenne mesurée pendant 7 fins de semaine consécutives dans une station de camping au Mont-Tremblant entre 20h et 21h. Faire un feu écolo? D'un point de vue environnemental, il est toujours préférable de brûler du bois que des combustibles fossiles, souligne Elliot Müller. Exit donc les foyers au propane, doté de fausses bûches. Utiliser des bûches écologiques faites à partir de sciures de bois compactées peut permettre de contrôler le taux d'humidité, ce qui limite la quantité de particules fines dégagées durant la combustion. Elles auront cependant une empreinte plus élevée côté fabrication, comparativement à des bûches traditionnelles. L'un dans l'autre, disons que ça peut diminuer les impacts, mais seulement si c'est bien fait, avance Elliot Miller. Il est également préférable d'utiliser des bûches fournies par le camping plutôt que d'en apporter d'ailleurs pour limiter la propagation d'insectes indésirables. Et mieux vaut privilégier des bûches assez sèches, sans écorce. De façon générale, la CEPAC décourage fortement d'utiliser des branches ramassées autour de son emplacement, ce qui pourrait dégrader les écosystèmes, en plus de produire beaucoup de fumée. Et bien sûr, il est primordial de respecter les interdictions de feu extérieur émises par la SOPFEU lorsqu'il y a un fort risque d'incendie dont les conséquences environnementales pourraient être bien plus grandes que celles d'un petit feu de camp. Un enjeu politique. Mais ces solutions sont loin de satisfaire Daniel Vézina, fondateur de Famille pour l'air pur. Pour lui, au contraire, cela renforce la perception des gens qui pensent que ce n'est pas leur feu qui pose problème, car ils savent comment faire un feu, eux, affirme-t-il. Selon lui, il faudrait aller bien au-delà. Encourager les campings à se tourner vers des feux communautaires plutôt qu'individuels et mettre en place des zones sans feu. Il aimerait aussi que des efforts soient réalisés du côté du marketing qui montre souvent le feu comme une activité indissociable du camping. Pour sa part, la CEPAC réfléchit à des façons de sensibiliser la population pour mieux orienter les personnes vulnérables vers des emplacements moins enfumés. Elle compte poursuivre ses projets pilotes de mesure de la qualité de l'air dans les campings, amorcé à l'été 2024. Mais au-delà des enjeux de santé et d'environnement, une question reste au cœur des débats autour du feu de camp. Faut-il restreindre les libertés individuelles pour protéger une minorité plus vulnérable? C'est vraiment un enjeu très politique, admet le docteur Perron, qui s'abstient prudemment de prendre position. Autres nouvelles écologiques, feu vert, ça chauffe. Au Musée de la santé Armand Frappier, à Laval, l'exposition temporaire « Ça chauffe, cool it » allie art et science pour éveiller les consciences. Sur un ton bienveillant, mais engagé, elle a pour objectif de sensibiliser aux impacts des changements climatiques tout en avançant des pistes de solutions. Des activités en laboratoire sont également proposées, où le public pourra expérimenter des concepts scientifiques liés aux défis environnementaux actuels. L'exposition, qui s'adresse à un public de tout âge à partir de 7 ans, se tiendra du 1er octobre 2024 au 1er septembre 2025. Elle a dit « Source, la forêt collective et le gramme ». Evelyne Bismuth, élève au secondaire au Lower Canada College à Montréal. Souvent, les gens de mon âge se sentent impuissants face à des enjeux aussi importants que le changement climatique, moi y compris. Elle s'est lancée dans l'ambitieux projet de créer une petite forêt diversifiée et résiliente face au climat. pari réussi. Au total, 50 arbres et près de 200 autres végétaux ont été plantés par une soixantaine de bénévoles près du canal de la Chine. La forêt, soutenue par plusieurs partenaires et gardiens d'écosystèmes, a été officiellement inaugurée le 27 septembre 2024. Feu vert. Les habitants du trottoir, Source, agence Science Presse, une étude menée à Berlin montre que les insectes raffolent des fissures dans les trottoirs. Parue le mois dernier dans Urban Ecosystems, elle a identifié 66 espèces qui y ont fait leur nid dans seulement une douzaine de segments de 200 mètres de long répartis à travers la ville. Et sans surprise, on retrouve une plus grande diversité et un plus grand nombre de nids d'insectes près de jardins où poussent des fleurs plantées par des groupes locaux de conservation de la nature pour attirer les insectes pollinisateurs. C'était Feu de camp entre écologie et tradition. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 27 septembre 2024 dans La Presse.
L'offre de soins de santé se stabilise à Anticosti. Un texte d'Alban Normandin, paru le 25 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord. Aux prises avec une dépendance aux agences de placement pendant de longues années, le dispensaire d'Anticosti dispose maintenant de deux infirmières permanentes. Malgré cette nouvelle stabilité, l'accès aux soins demeure un casse-tête pour les résidents de l'île lorsqu'un problème de santé survient dans leur vie. Leila El Attar vient tout juste d'emménager dans sa nouvelle demeure. Son appartement, fourni par le CI3S de la Côte-Nord, est situé au-dessus du dispensaire. Il offre une vue du centre de Port-Meunier. On peut y observer l'école Saint-Joseph et le bâtiment de la radio communautaire, Radio Anticosti. Elle a choisi de s'établir sur l'île d'Anticosti pour mettre un pied à terre et pour prendre plus de temps pour elle-même. Leila El Attar a aussi choisi de quitter les agences de placement en raison de leur disparition prochaine exigée par la réforme du ministre de la Santé Christian Dubé. Le dispensaire d'Anticosti, qui sollicitait régulièrement les services des agences de placement pour combler l'un des deux postes d'infirmier, a dorénavant une équipe fixe, ce qui permettra de rassurer la population, estime l'infirmière. Les résidents n'ont pas besoin de raconter encore leur histoire. C'est ce qui les dérange des fois. En arrivant la première semaine, quand les personnes sont arrivées pour consulter, ils cherchaient des visages réguliers, raconte-t-elle. Là, il y a une nouvelle, Leila, d'origine marocaine, ajoute-t-elle. Biologiste de formation, Leila El Attar a immigré au Québec avec sa famille il y a maintenant plus de 20 ans avant de devenir infirmière. Sa carrière dans le domaine de la santé l'a amenée à travailler dans les urgences de Montréal et Laval, mais aussi au centre Tulatavik à Coudjouac et dans plusieurs dispensaires en régions éloignées comme à Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord ainsi qu'à Mistissini et Coudjouac-à-Pic dans le nord du Québec. Maintenant, elle sert la petite communauté de 175 habitants et reprend des activités qu'elle adorait, mais qu'elle avait laissées de côté faute de temps, comme la randonnée pédestre et la cuisine. Savoir lâcher prise et soigner les chasseurs. De son côté, Alexandre Frigo entreprendra bientôt sa troisième année sur l'île d'Anticosti. Peu de temps après son arrivée sur l'île, avec son mari et ses deux enfants, l'infirmière d'origine française a été confrontée aux réalités de la région. Il faut savoir lâcher prise. Lorsqu'on est dans les villes, on a tout. On contrôle beaucoup de nos vies. Ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle de grand-chose. Il faut accepter ça, et ce n'est pas évident, dit Alexandre Frigo. Sur leur lieu de travail, les infirmières vivent aussi une réalité qui est bien différente de celle de leurs collègues qui œuvrent dans les grands centres urbains. Sans médecin sur l'île, les infirmières doivent être autonomes et deviennent les yeux et les oreilles des médecins de Havre-Saint-Pierre. Elles effectuent des évaluations médicales par délégation, c'est-à-dire des évaluations médicales complètes. Elles se réfèrent moins aux médecins et administrent des soins qui, généralement, ne relèveraient pas de leur responsabilité. Les types de soins, eux aussi, varient en fonction des saisons à Anticosti. À longueur d'année, les infirmières réalisent le suivi des maladies chroniques auprès de leurs patients, majoritairement vieillissants. Toutefois, lors de la période de la chasse, qui s'étend du mois de septembre à novembre, on va être plus dans des soins d'urgence. Des gens qui vont se lacérer quand ils apprêtent un chevreuil, des accidents lors de la chasse comme des chutes, énumère Alexandre Frigo. Lorsque la situation le requiert, un patient est évacué par avion vers cette île ou vers Québec. Pour les citoyens, il faut être toujours prêt. Mireille Noël, une anticostienne âgée de 75 ans, connaît bien la réalité des évacuations aéromédicales et la difficulté d'avoir accès à des soins spécialisés. Ses deux parents ont déjà dû être évacués de l'île pour divers problèmes de santé. De son côté, après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2010, Mireille Noël a dû quitter Anticosti à plusieurs reprises pour des rendez-vous médicaux. Tu perds le contrôle de ta vie et ici, tout particulièrement. J'ai reçu un téléphone un vendredi et on me dit « Madame, lundi, vous avez un rendez-vous avec un oncologue lundi à Québec. » Là, ça va vite, constate-t-elle. Bien que cette réalité soit difficile selon elle, Mireille Noël n'envisage pas quitter l'île. Pour elle, Anticosti, c'est la liberté et les grands espaces sur un territoire d'une superficie de plus de 7000 km². On est venu au monde ici, on dit qu'on va mourir ici, conclut-elle. C'était « L'offre de soins de santé se stabilise à Anticosti », un texte d'Alban Normandin, paru le 25 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord.
Qui en a qui, des sons latins aux origines lettonnes en toute authenticité. Une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Né en Lettonie, Kianaki a grandi en Europe de l'Est avant de partir pour Londres à l'adolescence. Autodidacte, elle y développe son amour de la musique. Celle qui a aujourd'hui élu domicile à New York est mannequin et autrice-compositrice-interprète indépendante. Même si elle aimerait signer un contrat avec un label, elle admet que de faire carrière en tant qu'artiste indépendante à l'ère des réseaux sociaux possède ses avantages. Avec plusieurs milliers d'abonnés à son actif, la jeune femme ouvertement lesbienne aux vibes latines se confie. Parlons de ton dernier single TikTok, qui est dédié aux gens qui hésitent à laisser entrer de grands changements dans leur vie. Donc, tu invites les gens à sortir de leur zone de confort, c'est ça? C'est l'idée de faire bon usage de son temps, car on aime tous procrastiner et c'est dans la nature humaine. Bien sûr, je m'adresse également à moi-même dans mes chansons, donc c'est un message pour moi, à la base. Ne perds pas ton temps, ne sois pas affecté par les opinions des autres qui valsent autour de toi, car il y a autant d'opinions que de gens, et tous auront une opinion différente sur ton travail. Étant une artiste gay, je parle à ma communauté et je suis consciente que les gens ont des croyances et idées différentes à propos de comment on devrait vivre nos vies. Il faut rester vrai envers soi-même, et ça, on peut le contrôler, au même titre que notre corps et notre esprit, même notre identité. Et personne ne peut, doit le faire à votre place, même pas votre famille. Personne n'a le droit de vous dire qui être ou avec qui sortir, et c'est le message au cœur de ma chanson. Dans ma chanson, j'encourage la personne avec qui je suis en relation à faire son coming out, car je suis là pour elle. Tu parles de ta partenaire. Est-ce autobiographique? Ma partenaire est déjà out, donc c'est de la fiction, mais j'ai déjà moi-même été dans cette situation avant de faire mon coming out, alors c'est ce qui m'a inspiré. En tant qu'auteur-compositrice-interprète, quel est ton processus créatif? Quand les idées émergent, j'écris mes chansons au piano ou à la guitare. J'ai appris moi-même ces instruments et je débute toujours par la mélodie, avant même d'écrire les paroles. Je dois ressentir la musique et la mélodie, et c'est ce qui inspire mes paroles et le thème général de mes chansons. Pour moi, tout est une question de feeling. Comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle, j'aime prendre mon temps pour écrire les paroles. Cela dit, quand j'ai reçu le beat pour TikTok, du producteur russe avec qui je travaille, j'ai tout de suite été inspiré et les paroles me sont venues rapidement pendant que je dansais dans mon appartement. Est-ce que tu comptes écrire des chansons en letton, ta langue maternelle? Oui, je parle le letton et le russe. C'est intéressant, car je travaille présentement avec un producteur russe pour sortir certaines versions en russe des singles déjà sortis en anglais. Par exemple, je viens tout juste de sortir la chanson « The Weeknd » et je compte sortir une nouvelle version. Est-ce que tu trouves ça plus confrontant de chanter dans ta langue maternelle? Non, c'est juste que lorsque j'ai commencé à chanter, je vivais déjà à Londres et tout le monde parlait anglais. Maintenant, comme mes fans sont plus anglophones ou latins, j'ai continué en anglais, mais j'ai envie d'agrandir mon cercle dans ma langue maternelle. Comment en es-tu venu à faire de la musique? Jeune, j'adorais chanter avec ma grand-mère pour m'amuser. Il n'y a pas de musicien dans ma famille et j'ai été élevé par une mère monoparentale, donc la musique est venue plus tardivement à moi. Lorsque j'étais à Londres et que je faisais du mannequinat, j'étais capable de payer mon loyer et j'ai commencé à suivre des cours de chant et à investir dans la musique. En écoutant ton dernier single « Weeknd » et en regardant ton clip sur TikTok, j'ai ressenti l'ambiance exotique et latine dans ton style, ta voix et ta danse. Ça m'évoque Shakira. Quelles sont tes influences musicales? Plusieurs me disent ça pour Shakira. C'est trop cool. Et elle fait partie de mes influences, car j'écoutais sa musique plus jeune. Mes plus grandes idoles sont les Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion. Je suis obsédé par Céline. C'est une inspiration. Ce n'est pas facile de faire de la musique. C'est un parcours en soi. Parfois, on a le goût de tout laisser tomber. Mais dès que je vois performer mes idoles, je me rappelle pourquoi je fais de la musique. J'aime aussi beaucoup Sia et Rihanna. Dans le clip « Coconut Rum and Coke », sorti il y a 7 ans, tu n'hésites pas à te mettre aux côtés d'autres femmes, dans des relations lesbiennes sexy. Idem dans « You're Real ». Pourquoi était-il important pour toi d'être authentique en lien avec ton orientation sexuelle? C'est lorsque j'ai fait Coconut Rum que j'ai déménagé en Amérique et que je me suis dit « ça y est, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». C'était mon choix de me mettre en scène avec des femmes, mais mon équipe à l'époque me suggérait fortement de faire autrement parce que j'avais l'air hétéro. On me poussait à tenir le rôle d'une fille straight, car il y a plus de public et que c'est moins niché de paraître hétéro. Je ne voulais pas faire ça, car ce n'était pas moi et je ne voulais pas me présenter au monde dans mon premier vidéo de façon non authentique. Ma musique n'attire pas uniquement des gens de la communauté LGBT, mais de tous horizons, et je crois que c'est d'abord parce que je suis fidèle à qui je suis. J'ai beaucoup de gratitude pour mes fans qui m'apprécient comme je suis. Le monde de la musique est connu pour être gay-friendly, mais as-tu déjà ressenti une certaine lesbophobie? Oui, souvent. Je reçois beaucoup de commentaires me disant que je joue à être gay, mais que je ne le suis pas, car je n'ai pas l'air lesbienne et que j'utilise la communauté pour faire carrière. C'est très blessant, mais je sais qui je suis. Et dans le monde du mannequinat, ne pas avoir l'air gay, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Ça dépend où tu évolues dans le monde en tant que mannequin. Aux États-Unis, c'est une bénédiction, car c'est plus ouvert. Tu peux être gay, avoir l'air androgyne, c'est même encouragé dans l'industrie. Cela dit, certaines agences respectées te modèlent selon un look précis, mais en général, ici, on nous laisse être qui l'on est. Parlant d'être qui on est, les droits LGBT en Lettonie se sont considérablement développés ces dernières années avec des lois récentes. Si l'homosexualité est légale depuis 1992, les personnes LGBT sont encore confrontées à de nombreux défis par rapport aux États-Unis. Je suis si fier. Merci à notre président. Autant que je sache, il est gay. C'est tellement encourageant dans une république post-soviétique. Ça tient du miracle. Heureusement, on est dans l'Union européenne. C'est ce qui nous rend libres. Tu as passé ton enfance en Lettonie et ensuite tu es déménagé à Londres avant de vivre à New York. As-tu vécu un choc culturel? J'étais straight à l'époque et j'ai déménagé à Londres avec mon copain. Puis, j'y ai découvert mon homosexualité. En Lettonie, je n'aurais même pas osé y penser à l'époque. C'est important de faire des parades et des manifestations, car c'est lorsque tu vois ta communauté que tu réalises que tu es normal, que c'est correct d'aimer différemment. Puis, lors d'un voyage en France pour mon travail de mannequinat, j'ai rencontré cette fille. Et tout a changé. Parlant de changer, quelle est la prochaine étape pour toi musicalement? Je travaille sur de la musique cinématographique et je vais continuer à sortir des singles. Sans le support d'une maison de disques, sortir un album est très dispendieux et difficile. Je ne veux pas que mes abonnés attendent 2 ans pour un album. Comme je sors un single pratiquement tous les mois, mes abonnés me suivent et ont toujours de la nouvelle musique et des vidéoclips à découvrir. Peut-être qu'un jour je sortirai ma guitare pour une version acoustique de mes chansons ou de « Like the way I do » de Melissa Etheridge. Je suis fan d'elle. Dans un concours en ligne, j'ai gagné une de ses guitares autographiées. Je me dis que je pourrais lui rendre hommage avec un cover d'elle avec sa guitare. Peut-être même qu'un jour je pourrais chanter sur scène avec elle, qui sait. Tout arrive pour une raison. C'était Kianaki, des sons latins aux origines lettonnes en toute authenticité. Une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, parue le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue.